need to get your chocolate fix, like, now. Simply press the dashboard chocolate button to zap the chocolate of your choice right into your hand.
A dashboard chocolate button chocolate teleporter will never happen. But with a new BP Me Rewards card, getting more of the treats you love more often will. Search BP Me Rewards to find out more. BP, every day, brighter.
Vous écoutez
RMC. RMC.
Vu le fait que les joueurs soient les ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe, les trois joueurs importants soient partis,
ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. L'After est là comme tous les soirs de la semaine jusqu'à minuit à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News. L'After, la seule émission radio en France en direct 7 jours sur 7. Ce soir, le casting du vendredi soir. Je vais le redire, c'est pas encore dans les esprits, c'est l'after de l'élégance. Même si Jonathan nous a gratifié d'un t-shirt trop court. Jonathan McCarty est avec nous ce soir. C'est pas très after vendredi soir.
Désolé, salut les amis.
Ludo Bragnac, la classe. Petite chemise Vichy, comme d'habitude. La classe. Ludo est avec nous.
Est-ce que tu penses que le t-shirt de Jonathan c'est du XXXS ou quand
c'était du M.
Hein, tu l'as piqué à ta petite sœur ou
c'était du M
sur un corps
du
M. XS.
Ouais. Du M.
On est ensemble jusqu'à minuit, messieurs. Magnifique moyen. Programme ce soir. Évidemment, on va débriefer dans un instant la victoire à l'arraché du Racing Club de Strasbourg sur le FC Nantes. Tiens, mais avant de dérouler le programme de cette émission, cette annonce.
Je te mets un low kick et je t'étrangle.
Et le polytechnicien, il va prendre un uppercut, tu vas voir.
Voilà, messieurs, je voulais couvrir pas ça rapidement.
Sache que, en aparté, Jonathan essaye d'annuler le combat un peu.
Pas du tout.
Un peu comme Caris. Il m'a proposé 300 euros pour annuler.
Alors,
combat,
messieurs, voilà. Pour être clair, parce que si vous n'étiez pas avec nous samedi dernier dans l'after, bien sûr, il y a eu, une prise de bec entre Jonathan McCarty. Regardez, messieurs, l'affiche. L'affiche existe. Ludo, t'as vu l'affiche? Là? Tout est parti d'une passe d'armes dans l'after samedi soir. Vous allez vous battre, messieurs, on l'a dit. Parce que le combat Caris Bouba a priori n'aura pas lieu. Le combat Aubragnac McCarty est sorti. Le surnom de. Je ne vois plus le surnom de Ludo. Est-ce qu'on le voit?
Ludovic Dynamite Aubragnac.
Ludovic Dynamite Aubragnac contre.
C'est Aubragnac.
Iron Mac, hein, en référence à Iron Mike.
Ouais, ok, pas mal.
Pourquoi pas? Ils sont chauffés la semaine dernière. Ils ont convenu d'un combat en décembre.
Non.
Boxe
en descendre un peu plus de temps. Moi, j'ai besoin de.
Je suis pas exemple,
j'ai besoin de m'entraîner.
En décembre, Ludovic Aubragnac et Jonathan McCarty monteront sur un ring pour 6 rounds au plus.
Pourquoi 6 ?
3 minutes, parce que c'est long quand même.
Ils vous ont dit.
L'affiche existe, vous la voyez sur RMC Sport News. On va la remettre encore une fois, l'affiche du combat.
Tu vas tenir sur une.
Ce sera filmé, ce sera live tweeté, ce sera suivi bien sûr sur nos réseaux sociaux. Entre Jonathan Iron Mac et Ludovic.
Moi, je cherche pas le chaos, je vais juste te détruire artistiquement.
Messieurs, ce soir, au sommaire de l'after, on est ensemble jusqu'à minuit. La vie tranchée de Jonathan McCarty sur Pipa Benedetto. Le mea culpa de Ludovic Aubragnac. Des infos PSG et puis un quiz surprise en fin d'émission. D'abord, le.
Oubliez tout l'essentiel.
Oui.
À minuit, rendez-vous pour le RMC Fighter Club avec Brahim Asloum, Alex Arbinet et Thomas Desson.
Effectivement,
on en direct. Et vous pouvez nous retrouver sur l'Apple Store et tous les sites de téléchargement de podcasts.
Et c'est ça le mea culpa en fait, c'est que je pensais que c'était nul, mais finalement c'est bien.
Messieurs, avant le débrief de Racing Club de Strasbourg, FC Nantes victoire des Strasbourgeois de Buzyn. Les résultats de Ligue 2 rapidement, la défaite de Jean-Marc Furlan et de la JOCR. 2-1 à domicile face à 3. Nul entre Châteauroux et Grenoble. Le Mans battu à domicile par Ajaccio. L'AS Ajaccio 4-2. Victoire de Nancy, rien de plus pour Chambly, 3-0. Orléans-Le Havre 2 partout. Paris FC battu à domicile par Clermont 2-0. Sochaux bat Guingamp 3-1. Et Valenciennes-Niort, Niort qui a fini à 9, 1 but partout. Score final, le classement de Ligue 2, je vous le donne tout de suite. C'est une très bonne opération pour Troyes notamment, qui s'impose sur la pelouse d'Auxerre. En tête de ce classement de Ligue 2, après 8 journées, Le Havre 16 points, devant Lorient 16 points, Troyes 16 points, on a un podium à 16 points. Rappelle que les deux premiers monteront directement. Ouais. En Ligue 1.
Ça serait bien d'avoir Jean-Marc Furlan.
On a dit, faudra faire une spéciale.
Ouais. Là, il était un peu nerveux, il s'est fait un carton rouge. La tâche qu'il attend au CER est très compliquée. Donc on va demander beaucoup de patience et j'aimerais bien voir son avis sur la manière dont il sent les choses pour cette saison.
Enfin, il a déjà entamé une remontée.
Oui, bien sûr.
Ce qu'il a montré pendant quelques matchs, ça s'est pas
c'était
vu pendant 2 ans au CER.
C'est le meilleur entraîneur français en activité, donc on va être clair là-dessus. Mais voilà.
Strasbourg, cher AJ Babribois, c'est donc imposé 2-1 ce soir face au FC Nantes. C'est important pour Strasbourg. But de Koulibaly pour le FC Nantes qui avait ouvert le score à la 28e. Égalisation Dimitri Liénard à la 66e sur un temps fort de Strasbourg. Et puis victoire en fin de rencontre sur penalty. C'est Ludovic Ajorc à la 89e minute de jeu. Juste le classement, messieurs, pour vous dire que Nantes, qui aurait pu prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 ce soir avant les matchs du week-end, est toujours 4e avec 10 points. Strasbourg sort de la zone rouge, 13e désormais avec 6 points. Messieurs, c'est parti. Ludo, victoire méritée de Strasbourg ?
Pas forcément, il y a eu une mi-temps chacun. Nantes a très bien entamé le match. Strasbourg qui, depuis son élimination, est clairement en manque de confiance. Mais c'est aussi un juste retour des choses parce que cette équipe a connu une ascension fulgurante depuis maintenant plusieurs années où ils enchaînent, ils ont gravi les échelons de division à division et puis ils se maintiennent. Et puis ils obtiennent une Coupe d'Europe, tout s'enchaîne pour eux. Il y a forcément un moment dans un cycle où le juste retour des choses, c'est qu'il y a une période de descente. Et cette période de descente, ils l'ont vécu un peu en début de saison. Le déclic, ça a été cette élimination contre Francfort, où finalement ils sont passés à rien. Oui. De pouvoir être dans les poules de l'Europa League. Et je peux comprendre qu'ils ont pris ça comme un coup de massue. Ils ont aussi dépensé beaucoup d'énergie dans cette campagne, puisqu'ils ont repris très tôt.
C'est eux qui ont repris les premiers.
Et puis, il suffit d'enchaîner quelques mauvais résultats. Mais cette équipe, à l'image de Dimitri Liénard, qui joue pas souvent, mais qui est un disciple fidèle de ce club et de cette équipe, bien sûr.
Voilà. Il y avait du monde devant quand même.
Il y a toujours des garçons dans cette équipe qui sont capables de relever les autres, qui ne pensent pas individuel mais collectif. Dimitri Liénard, il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps.
Ouais.
Et je trouve c'est comme un symbole que c'est lui qui relance cette équipe. Et j'ai aussi beaucoup aimé le match de Bellegarde qui monte en puissance petit
c'est un
à
bon
petit.
Joueur, ouais. On savait ça.
Et puis Thierry Loré aussi, il faut en parler. Parce que
très clairement, la clé du match, c'est ça. Alors, c'est un match qui donne une victoire de Strasbourg, mais je pense que les deux équipes peuvent en tirer du positif parce que ce que Christian Gourcuff a réussi à mettre en place en très peu de temps, on rappelle qu'il
a revitalisé cette équipe.
Voilà, ouais. au début de la saison, après l'imbroglio avec Bayern.
Il prend deux jours avant déplacement à Lille, il perd et après il est invaincu.
Et au final, on commence à voir, on sent vraiment la patte de l'entraîneur, ce 4-4.
Tu la sens vraiment ?
Oui, on sent du jeu sur le côté, on sent des déplacements qui sont hyper intéressants.
Sur la première mi-temps.
Et la première mi-temps, moi, je l'ai trouvé assez positif du côté de Nantes. Après, ce qui a remarqué, c'est que Thierry Loré, en deuxième mi-temps, a fait des ajustements qui étaient nécessaires. Cette défense à 5 qui avait montré beaucoup de difficultés en première mi-temps, notamment dans l'animation au milieu de terrain, qu'est-ce qu'il fait ? Il réagit, il est acteur sur le match, il a une influence positive sur le match, il sort du coup, il fait rentrer Liénard, et ça change la face de l'équipe. Du coup, ça se joue beaucoup mieux. Je pense que Gilbert Bribois, en première mi-temps, c'est des cheveux blancs avec le peu qui lui restait. Non, désolé, il n'en a plus. Mais... En seconde, on a vu un tout autre visage de Strasbourg. Et au final, voilà, chaque équipe a eu sa mi-temps. Strasbourg a été, il me semble, plus réaliste sur son temps fort. Et c'est une victoire qui, somme toute, me semble méritée, vu l'impact de l'entraîneur sur ce match-là.
Et Liénard, super sub. Hein. Bon, évidemment, un coup de popularité maximum à...
C'est normal.
À la méno, quand il rentre, il fait du bien quasiment tout le temps.
Tout le temps, c'est un joueur qui a vraiment l'esprit de compétition, l'esprit club, il est toujours dans la performance. Il est jamais, enfin, excepté ce match là contre Francfort où j'ai l'impression qu'il a tellement envie d'apporter à son équipe qu'il est un peu dépassé. Il est un peu dépassé par les événements. Il prend ce rouge qui pénalise son équipe et je sens qu'il en avait aussi un peu gros sur la patate parce que le connaissant, je sais qu'il a pris, il l'a pris personnellement. Il pense qu'il a un rôle, il a joué un rôle. Négatif dans.
Il te l'a dit sûrement, non ?
Non, il ne me l'a pas dit, mais je connais un peu l'individu, je sais qu'il l'a pris pour lui. Donc, je suppose qu'il s'est remis en question et qu'il a, à chaque fois qu'il peut, qu'il rentre et qu'il essaye de se rattraper un petit peu.
Et
c'est le cas ce soir.
Un dernier mot sur un joueur que je trouve vraiment très bon. Ouais, c'est Bellegarde. Bellegarde, l'année dernière, il m'avait tapé dans l'œil, mais il jouait au RC Lens avec un entraîneur qui ne maîtrise pas grand-chose au RC Lens, qu'il faisait jouer parfois ailier. Ce qui semble un peu, maintenant qu'on le voit en Ligue 1, semble un peu bizarre. Mais c'est un joueur qui a toujours montré du caractère, qui a des belles qualités. Et je trouve que, dans cette équipe, en jouant dans le cœur du jeu, c'est un joueur qui montre un très bon potentiel et qui a tout pour devenir un très bon joueur de Ligue 1.
Mais ce match est un marqueur fort aussi pour Thierry Loré. Il est peut-être temps aussi, à un moment donné, de faire évoluer cette équipe. Alors, je dis pas, cette défense à 5, elle est bien huilée. Donc, peut-être que tu peux le garder. Mais comme il l'a fait ce soir, peut-être qu'à domicile, tu peux garder cette défense à 5 à l'extérieur et peut-être contre les équipes contre qui tu sais que tu vas probablement galérer, même à domicile. Mais sur certains matchs, il a aussi des joueurs plus qu'intéressants sur le banc.
Devant.
Entre Motiva, Nuno Da Costa. Moi,
Cornier qui est là aussi.
Cornier, il l'a jamais fait, mais pourquoi pas aussi aligner, essayer de trouver une solution pour aligner les trois, parce que Motiba. Et à chaque fois qu'il est là, il a été bon, Motiba. Alors, il est sorti de l'équipe parce que Ajorque aussi a performé. Mais c'est un garçon qui peut apporter.
Après, c'est intéressant ce que tu dis, parce que s'il y a bien une qualité qu'on doit reconnaître à Thierry Loret, c'est que c'est un entraîneur qui est actif sur les matchs, qui se laisse pas dépasser par les événements. Quand il voit qu'il se plante dans ses compositions d'équipe, il fait des ajustements à la mi-temps. J'ai encore en tête le premier match là contre le Maccabi, où Thomasson, il fait rentrer Thomasson, il réajuste son équipe, il fait rentrer Thomasson en seconde mi-temps et Thomasson est décisif, marque et un impact plus que grand sur le résultat final. Donc c'est un entraîneur qui analyse bien les situations, qui sait s'adapter, qui sait s'ajuster. Donc laissons-lui un petit peu de temps pour prendre en main son effectif qui a repris.
D'autant que Nantes jouait qu'avec Koulibaly devant, t'avais pas besoin d'être à 3 pour 1.
Exactement.
Donc, mais il faut l'humilité et ravaler un peu son ego pour dire je me suis trompé et changer ma
Le coupeau. Management de faire sortir un joueur à la mi-temps en lui expliquant que c'est un changement tactique et tout en le maintenant mobilisé sur le reste des matchs, et ça il sait faire.
Ça réagit sur le hashtag RMC Live. Le 32-16 est ouvert. Supporters strasbourgeois et nantais, appelez-nous bien sûr après cette victoire du Racing de Buzyn face au FC Nantes. Thomas Pinaroli qui nous dit sur le hashtag RMC Live, match déclencheur pour le RC Strasbourg ce soir. Première victoire après avoir été mené suite au changement tactique de Loré, avec beaucoup d'envie et d'occasion en seconde période. Confirmation que ce club n'a rien à craindre pour le maintien. On n'était pas inquiet pour Strasbourg.
Quand j'ai vu la première mi-temps, j'étais inquiet. Parce que finalement, cette équipe, elle s'est beaucoup appuyée sur l'intensité qu'elle mettait dans les matchs. Et je me suis demandé si, avec cette campagne, quand je vois quelqu'un comme Lala, alors on peut parler du transfert avorté, mais il est toujours à Strasbourg. Donc, même derrière, je trouve que ça s'est limite un peu en bourgeoisé. Tu vois, cette campagne européenne, le fait de finir dans les 10 premiers. Je retrouvais plus l'intensité qu'ils avaient mis, à part certains joueurs. Tu vois, quand Liénard rentre, bim, il imprime le tempo.
Il incarne quelque chose.
Il imprime tout de suite le tempo, l'état d'esprit. Et ça a mis, l'équipe s'est mis au diapason. Mais, tu vois, ils sont un petit peu moins dans l'intensité, un petit peu moins dans la spontanéité. Ils gardent
ces ballons. 6 matchs de jouer en Coupe d'Europe.
Cette équipe, ça tient à rien.
De là à dire qu'on était inquiet pour le maintien, je pense que la frontière est un peu grande. Moi, j'étais inquiet sur la première partie de saison parce qu'ils ont repris très tôt. Parce que c'est une équipe qui est structurellement préparée à avoir une Coupe d'Europe, à faire ses tours préliminaires, qui a eu ce coup derrière la tête parce que mine de rien, je pense qu'ils y croyaient quand même de faire l'exploit contre Francfort. Mais au final, voilà, c'est une équipe qui a quand même de la qualité et qui a surtout, parce que parfois on a tendance un petit peu à le réduire sur ses coups de gueule, mais qui a surtout un très bon entraîneur.
Ouais, mais Joe, tu connais aussi la faculté des joueurs à vite douter. C'est-à-dire que là, t'étais dans le bas-fond du classement. Si tu gagnais pas ce match-là ce soir, mais tu l'as vu même au début de match, le doute commençait légèrement à s'installer.
C'est un match qui était important.
Vous êtes plus inquiet pour Strasbourg. Vous êtes plus inquiet pour Strasbourg que pour Monaco ou pas?
Non. Monaco, ça demanderait un after entier. C'est un
plus inquiet pour Monaco.
Intégral.
On en parlera dans l'after évidemment.
Alors, des bons joueurs. Hein.
Oui, il y a beaucoup de bons joueurs, mais il y a un entraîneur qui est en crise de confiance, qui a un manque de solutions.
Est-ce que c'est
actuellement
un entraîneur seulement? C'est pas
l'instant. On en parlera. Il y a une grosse rumeur, Claude Puel, qui insiste et qui est en plein autour de l'AS Monaco, d'ailleurs, pour succéder à Léonard de Jardim.
Quand tu fais un recrutement où tu cibles que l'année d'avant, ton point faible, c'est la défense. Et que pendant le mercato, t'achètes pas un défenseur, ou du moins t'en as acheté un, mais qui est pas dans la lignée d'Enaldo, dans la lignée d'autres qu'ils ont acheté, il met pas un pied devant l'autre, en tout cas en ce début de saison.
Ce qui est bizarre, c'est qu'en sélection, il est bon. Vraiment.
Ok les gars, Monaco on le fera une autre fois. Au 32-16, supporter du FC Nantes, Xavier nous a appelé. Salut Xavier.
Bonsoir à tous.
Salut, merci Xavier d'être avec nous, bienvenue dans l'after bien sûr. Bon, c'est une fin de série pour le FC Nantes. On y a cru pendant 60 minutes pour les Nantais. Ils étaient leaders de Ligue 1 provisoirement. Ça ne veut rien dire évidemment après 5 matchs et demi. Mais quand même symboliquement c'était fort, Xavier.
Oui c'est clair. Enfin, d'ailleurs à la mi-temps j'ai regardé le classement sur une appli... sur une appli que j'ai, et j'ai vu Nantes en haut, ça me rappelait les bons souvenirs d'antan. Je lui ai dit, je vais photographier ça, parce que je pense que notre véritable place, on parle beaucoup de Nantes, de haut de tableau et tout, mais je pense que notre véritable place est entre 7 et 12.
C'est le ventre
maintenant, pour revenir au match de ce soir, pour moi, le résultat est dû, vous parlez de la tactique de Loret, oui, d'accord, mais pour moi, elle est due à la faillite du milieu nantais en deuxième mi-temps.
Abed et Touré, principalement.
Oui, Abed, Touré, Louza et Blas n'ont pas été au niveau, je pense, dans l'agressivité et dans la construction du jeu. Pour moi, j'aurais fait sortir Louza à la 65e pour faire entrer Benavente, qui est un très bon joueur technicien qui aurait pu nous permettre de garder le ballon
ouais.
au milieu du terrain.
Louza, ça lui brûlait un petit peu trop parfois.
Surtout qu'il était cuit aussi. Il était cuit. Donc je pense que la défaite est plus liée à la faillite du milieu nantais ce soir qu'autre chose.
C'est les deux, je pense que c'est les deux.
La faillite du milieu nantais, elle est due aussi à
l'ajustement tactique.
Qu'il a ressuscité le milieu de terrain strasbourgeois.
L'ajustement tactique de Thierry Loret, c'est d'avoir densifié son milieu de terrain et d'avoir apporté de la qualité technique.
Mais si vous ne mettez pas les ingrédients, c'est-à-dire l'agressivité, et la technique, c'est sûr que vous allez vous faire bouffer par toutes les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2. Même
honnêtement, Xavier, franchement, moi quand j'ai vu la première mi-temps, honnêtement, je suis plus que, enfin, j'allais mettre dans mes points de départ Nantes. Enfin, j'étais persuadé que Nantes, parce que ça s'est joué à rien. Ils ont eu une ou deux balles pour doubler la mise, notamment une action là où il y a une reprise pied gauche un peu ratée. C'est une super occasion. Mais cette équipe, on voit clairement. Et vous venez, faut se rappeler d'où vous venez.
En début de saison.
Et puis avec les changements successifs d'entraîneurs, de joueurs, tu perds Rongier. Enfin, je trouve que Christian Gourcuff, en l'espace de très peu de temps, en train de construire un groupe qui est plus qu'homogène. J'étais particulièrement séduit par la défense, comme tu l'avais dit déjà la semaine dernière. Ouais. Palois, Giroto, c'était plutôt pas mal.
C'est une vraie trouvaille, Giroto en défense centrale.
Moi j'aime beaucoup.
Simon, et le petit Louza aussi qu'il a lancé.
Mais le petit Bonaventé, t'as raison, on a envie de le voir, Palois, ce garçon.
Comment?
Ce soir, ça a tenu la route, hein, Palois.
Ben oui, bien sûr.
Ça tient la route. Bien sûr, ça tient la route.
Ce qui est la force de Gourcuff, c'est que là, on est à la sixième journée.
C'est ça.
À la sixième journée, il est arrivé, il a pris l'équipe dans les conditions qu'on sait, et il a déjà réussi à construire quelque chose. Donc voilà, ça aurait été symbolique de prendre la première place, même si on sait très bien que ça aurait pas voulu dire grand chose. Mais en tout cas, si je suis supporter nantais, je suis quand même assez serein pour l'avenir.
Merci Xavier. T'es serein pour l'avenir aussi ou pas, toi?
Oui, je suis quand même serein.
T'es serein.
Et comme je l'avais dit quand vous m'avez appelé en début de saison, pour l'arrivée de Christian Gourcuff, c'est exactement l'homme qu'il fallait au FC Nantes maintenant.
En fait, t'as envie de dire
je le répète encore une fois, Gourcuff, c'est pas un an qu'il doit rester, hein. C'est au moins trois ans.
Ah bah oui. Oui, voilà. Il doit faire un cycle moyen.
Il arrive en fin de mercato, Gourcuff.
Gourcuff, il arrive deux jours avant le déplacement à Lille, première journée.
Ça veut dire qu'il a réussi avec cette équipe alors que c'est même pas lui c'est pas lui qui réalise ce mercato.
Ils ont recruté Blas à la fin.
Un petit peu, mais.
Faut dire qu'il vient Marcus Coco très vite sur le match à Lille, qui était la grosse recrue à Nantes et qui est pas là pendant plusieurs mois.
Ils prennent Blas, on lui enlève Valentin Rongier qui était quand même la pièce maîtresse de cette équipe-là.
Il lance Louza.
Comme si cette pause un peu où il s'est exporté, tu vois, je l'ai rarement vu aussi enthousiaste, tu vois, la première fois que je le vois se lever les bras, c'est pas le genre.
Sauf que le mec il kiffe en fait. Il pensait pas rebosser forcément tout de suite ou pas rebosser tout court. Il arrive au FC Nantes où il trouve un cadre hyper.
Tout le monde va dire, il y a certains qui vont dire qu'il a un côté très professoral, donneur de leçons, machin.
Le coach va apprécier par la
corporation. Mais honnêtement, c'est un très bon tacticien.
Franchement,
c'est vrai qu'il n'est pas apprécié par la corporation.
Mais parce que c'est des ânes.
Je connais beaucoup d'entraîneurs qui traînent autour de chez nous qui.
Eh ben, c'est des ânes, c'est tout.
Après
Jean-Marc Furlan, c'est Gourcuff le meilleur entraîneur français en activité. Et d'ailleurs, s'il nous entend, ça sera avec grand plaisir qu'on l'accueille.
C'est bien, c'est une leçon de football, Jean-Marc Furlan qui est Gourcuff. Les mettre en face.
Un débat.
Avec vous là,
comme les présidentielles.
J'ai passé 3 heures un après-midi avec lui dans un hôtel à discuter foot.
Il voulait être recruté.
C'était passionnant.
Il voulait être recruté.
On lance l'appel. Hein. Christian Gourcuff, Jean-Marc Furlan, on vous attend dans l'after évidemment. Alors le vendredi c'est Ligue 2 pour l'un et parfois Ligue 1 pour l'autre. Le samedi soir aussi, c'est sur une trêve internationale, pourquoi pas. Non, mais vraiment, on va vraiment lancer l'appel. Christian Gourcuff et Jean-Marc Furlan dans l'after.
Dans les élections présidentielles, quand tu organises le face-à-face.
Vous serez là. Messieurs, merci Xavier.
Salut Xavier.
Merci
Xavier. Est-ce que tu aimes le cinéma? Est-ce que tu aimes aller au cinéma?
Oh bah oui, comme tout le monde.
Est-ce que tu aimes Sylvester Stallone comme Ludo aime Sylvester Stallone?
Ah, j'adore Sylvester Stallone.
Je vais pas dire que j'adore, mais j'aime bien.
Est-ce que tu as envie d'aller voir le nouveau Rambo au cinéma?
Oh là là.
Bah pourquoi pas. Et j'ai vu tous les autres, donc.
Xavier, justement, t'iras le voir. On t'offre deux places pour le Rambo Last Blood avec Stallone qui revient dans ce cinquième
opus
explosif.
C'est
pour toi, Xavier.
T'as pas pris une ride. Les Rambo,
c'est
les
très Rocky, gentil, bon, merci.
Tu l'as vu?
Non, tu te remates les Rocky, les Rambo. Hein.
Ah, les Rambo aussi?
Pas pris une ride.
Les Rambo, je suis pas sûr, mais les Rocky, c'est vrai que.
Non, je me suis refait Rambo 2 l'autre fois.
Les Rocky, c'est pas ça. On est d'accord, le Rocky, le meilleur, c'est le Rocky 1. C'est le premier.
Et évidemment. Ouais, ils sont tous bien réalisés, écrits par Stallone lui-même. Hein. Magnifique.
Jusqu'au 4.
Il n'y a pas de comparaison possible. Le meilleur, c'est le 1 et de loin.
Vous êtes plus Ivan Drago ou. Comment il s'appelle l'autre qui meurt, son pote, Apollo Creed.
Apollo Creed.
Messieurs, tiens, on nous dit sur la chaîne RMC Live, je vous conseille de regarder le super but d'Amine Harit, ancien Nantais, avec Schalke 04 ce soir, qui a marqué un but somptueux, paraît-il. Pareil sur le compte de l'After. Je veux voir ce combat entre le bras de Lagnac. Aubragnac.
Oh, bravo.
VS Jules Bardi.
Aubragnac.
Aubragnac, exactement. L'After revient dans un instant. Jonathan Macardy, Ludovic Aubragnac, l'Olympique de Marseille.
Ah,
la vie tranchée de Jonathan Macardy. La composition probable pour Marseille demain face à Montpellier. Justement, on a les infos probables signées Flo Germain. Hein,
jouer Hiroki.
Eh non. Hiroki forfait a priori.
Joe veut faire un mea culpa sur Jacques Henry.
Exactement. Et toi, Stu, on dit pas. L'After vient dans un instant, à tout de suite.
RMC. L'After Foot. RMC. L'After Foot. Nicolas Jamain.
Jonathan Aubragnac.
Je sais pas, je l'ai fait celle-là, t'as vu? Je fais pas exprès, les mecs.
C'est une fusion tous les deux. Ludovic Aubragnac, Jonathan Macardy pour l'After, on est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr, avec notamment le PSG au programme. PSG Lyon dimanche soir.
Première grosse affiche là, on a envie, là.
De Ligue 1, surtout après ce qu'on a vu mercredi soir face au Real.
Sivigno, il est déjà attendu au tournant.
Sivigno, un mois sans victoire, Lyon déjà. Hein. Quatre semaines sans le moindre succès.
Ouais.
Ça commence à être déjà un petit peu chaud pour le tandem, hein. Sylvinho et Juninho. Hein. On rappelle que c'est Juninho.
Mais chaud pour Juninho. Juninho sera pas inquiété.
Mais bon, il est quand même responsable de la une Sylvinho.
Et Sylvinho aussi, il faut lui laisser quand même. Bien sûr. Pas quand même tirer des plans tout de suite.
Sur la comète, ouais.
Dans la comète ou sur la comète?
Sur la comète.
Dans la comète.
Dans la comète.
Il y a un quiz à la fin de l'émission également, bien sûr. Un quiz spécial, vous allez voir.
Sur la comète?
Surprise. Dans la comète.
Sur la comète?
Ouais. La déclat du jour, signé Morgan Sanson, milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui en conférence de presse.
Le copain de
Morgan Sanson est sous le charme.
New level.
De Pipa, super Dario Benedetto, écoutez.
Il me fait penser un peu à Agüero parce qu'il est, il paraît pas, mais il est très costaud sur ses jambes et il a une super frappe de balle. Donc c'est un attaquant qui est complet, qui prend la profondeur mais qui décroche aussi. Honnêtement, on se régale à jouer avec lui.
Alors oui, ça fait beaucoup parler quand on compare un joueur à un grand joueur, en l'occurrence Benedetto à Agüero. Beaucoup de réactions aujourd'hui sur les réseaux notamment. Ça a inspiré notamment la vie tranchée de Jonathan Macardy.
Valère Germain, il est encore plus nul que Mitroglou. Juste parce qu'il est gentil, qu'il zozote, que vous l'aimez bien, arrêtez, il est nul.
Sauf que Dario, il zozote pas, hein, a priori.
Non,
c'est sûr,
va.
On sait pas
non,
d'ailleurs.
Ça va. Ben non, ça va, tu l'as entendu parler. Tu connais bien le pays.
Jonathan, c'est à toi.
Eh ben, mon avis tranché, c'est que les débuts réussis de Pipa Benedetto, c'est une leçon pour tout le football français. Et je vais m'expliquer pourquoi.
Ah, dis donc.
4 buts en 4 titularisations.
Ouais.
Et puis voilà, on va se rappeler de ce qu'on a entendu tout l'été. Trop vieux, n'a jamais connu l'Europe, la grosse blessure. Mais c'est qui? Toutes ces sottes objurgations ont beaucoup trop erroré à l'annonce du transfert de Benedetto à l'OM. Et aujourd'hui, bah, devinez quoi? Toutes ces lancinantes et stupides phrases, toutes faites, elles semblent au mieux démodées. Mais bien évidemment qu'elles sont ridicules. Parce que oui, bah, ces débuts canons de Pipa en Europe, c'est une leçon. Et c'est une leçon pour le monde du foot dans son ensemble.
Ah, pas que la France, le monde.
Pour le monde du foot français, pour le microcosme du foot français. Observateur, recruteur, joueur, nous avons tous à apprendre avec beaucoup d'humilité des débuts de Pipa Benedetto. Et pourquoi? Alors premièrement, du côté des clubs. Je pense que la leçon, c'est bel et bien que le football, eh ben, contrairement à ce que pensent nombre de cellules de recrutement de Ligue 1, le football ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe. Alors oui, le football de clubs sud-américains et plus particulièrement argentin, ça, Nico, tu le sais bien, ça, ce football connaît une crise lancinante et structurelle depuis de nombreuses années. C'est le format du championnat, c'est le niveau général des équipes, c'est les joueurs qui partent de plus en plus tôt. Mais il faut bien admettre donc que c'est un football qui est en forte régression. Mais alors qu'avant, on louait des clubs comme Porto, qui jadis offrait un passeport Schengen au dépressif Falcao, parce que quand Porto va chercher Falcao, c'était pareil, c'était déjà trop vieux, n'a jamais connu l'Europe, s'est fait deux fois les croisés. Ou encore l'Ajax d'aujourd'hui, tout le monde en sens l'Ajax, qui offre une scène européenne à Tagliafico ou à Licha Martinez. Et ma force est de constater que Pipa Benedetto, pour les clubs de Ligue 1, c'est la preuve vivante de l'énocentrisme footballistique de nos clubs. Parce que oui, il existe un football non européen. Et oui, il y a des très bons joueurs qui évoluent en Amérique latine et qui peuvent réussir. Et oui, un club de Ligue 1 doit ouvrir son champ des possibles et doit regarder un petit peu ailleurs pour recruter. Donc ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est du côté des analystes. Alors, on les a entendus, hein, ces nombreux experts, entre gros guillemets, nous dire à quel point Pipa, bah, ça allait être un flop annoncé. J'ai entendu des, bah, il est encore plus nul que Mitroglou, après un pénalty loupé contre Nantes. J'ai entendu des, non mais c'est quoi ce joueur de le payer 15 millions d'euros? Bon, bah, le problème, en fait, moi, pour moi, c'est une malhonnêteté intellectuelle que je qualifierais de crasse qui a été mise en route. Celle qui consiste à parler d'un joueur alors que tu l'as jamais vu jouer. C'est ça qui est quand même hallucinant. On a entendu des gens nous dire qu'ils avaient vu Pipa Benedetto jouer dans des compétitions que Pipa n'a jamais joué. Vous vous rendez compte? Alors, ça, pour moi, cette malhonnêteté intellectuelle, il faut vraiment arrêter avec ça. Parce qu'elle suit de près une mode qui, malheureusement, est abjecte et de plus en plus courante de nos jours, c'est de parler de matchs qu'on n'a pas vus. Alors non, je ne tire aucun orgueil particulier à vous avoir dit que Pipa Benedetto, c'était un bon joueur, ni d'avoir dit que c'était cadeau pour 15 millions d'euros, ni de l'avoir mis en tête des priorités de mon Olympique de Marseille depuis 2 ans. Simplement, c'est pas un mérite, mais j'ai simplement vu 90% de ces matchs avec Boca Juniors. Et parfois, c'est un truc tout bête. Regardez les matchs, ça suffit pour se faire un avis objectif sur un joueur. Alors, vous savez, Pipa, c'est aussi une leçon d'humilité donc pour l'ensemble des consultants et des analystes. Moins de malhonnêteté intellectuelle, moins d'esbrouferie et plus de matchs regardés, les gars. Parce qu'au passage, je vais vous dire, aujourd'hui, au 21e siècle, c'est assez facile, avec les moyens technologiques et Internet, de se faire son petit système de matchs et de les regarder chaque semaine, toutes les semaines, en VOD personnalisé. Et la troisième leçon que Pipa donne, c'est du côté des joueurs. On a parlé de l'épisode Neymar qui, soi-disant, était prêt à mettre 20 millions d'euros de sa poche pour payer son transfert vers le FC Barcelone. Et puis on a eu pas mal d'histoires pendant le mercato, voilà, cette coutume de joueurs qui respectent pas le club qui les emploie et qui leur verse leur salaire. Et ben les gars, prenez exemple sur Pipa, parce que oui, c'est pas le plus talentueux, on va être clair, hein. Au mieux, ça sera un joueur de bon niveau Europa League, on peut dire ça comme ça. Mais lui au moins, apprenez de son respect, du respect qu'il donne au club qu'il emploie. Apprenez aussi de son amour du foot qui un jour l'a poussé, lui, à vraiment payer 1 million d'euros de sa poche pour rejoindre Boca Juniors et honorer la promesse qu'il avait faite à sa mère qui était morte auparavant. Donc voilà, ça c'est vraiment une leçon de comportement et une leçon pour s'adapter à un club. Alors pour conclure, ces débuts réussis de Pipa Benedetto, c'est donc une leçon pour moi, pour l'ensemble du monde du football et en premier lieu pour ma pomme. Bah ouais, parce que ma pomme, il va pas falloir jubiler trop, de manière mal placée, en se la jouant, je vous l'avais dit. Et au contraire, je pense que moi, la leçon que j'en tire, c'est attention, il a marqué 4 buts, 4 titularisations.
Voilà, c'est ce que j'attendais.
On va attendre ce qui va se passer avant de vraiment s'enflammer. Parce que s'il y a bien une leçon que Pipa nous a appris, c'est d'analyser les choses objectivement et froidement.
Jonathan Macardi. C'est David Rocher, Jonathan Macardi, préparé,
construit,
écrit également.
Et nous ne sommes pas sur la chaîne de l'Assemblée Nationale.
Non, on n'est pas sur la LCP, la voix publique Sénat. Voilà. Exactement. Foot français, ethnocentré ou auto-centré, si tu veux.
Ethnocentré.
Qui ne regarde pas à l'extérieur, en tout cas pas en Amérique latine. Nombriliste, voilà, narcissique, voilà. Ludo, je vais te faire réagir. Des appels au 32-16, évidemment, parce qu'on parle d'un sujet pas sensible, mais qui plaît beaucoup aux Marseillais. Un point déjà, Flo Germain, qui est notre journaliste à Marseille, nous dit qu'il est déjà, ce gamin, il a 29 ans, adoré par les supporters de l'OM, par le Vélodrome déjà. Certes, on attend de voir encore un petit peu. Mais effectivement, parfois des choses logiques qui ne se passent pas comme prévu, Jonathan, tu sais. Non, mais c'est vrai. Parfois, un joueur semble taillé pour un club et passe à côté du club aussi. Lui, c'est vrai qu'il passait, il avait le profil typique. À Boca, entre Boca et Marseille, finalement, il y a beaucoup de points communs. Il y a le public, la ferveur, l'ambiance, la pression, l'attente et surtout le dépassement du saut de soi que ce joueur a en particulier et qu'on voit trop peu. Ludo.
Non, je peux suivre Jonathan, bien sûr, dans sa plaidoirie faveur de Pipa Benedetto. C'est vrai que on a l'impression que des fois les clubs français en termes de recrutement, comme il le dit, c'est un peu nombriliste. Ça voit pas plus loin que le bout de son nez. Le problème de tout ça, c'est que moi j'ai aussi beaucoup de gens, c'est de la manière dont fonctionne le club en fait, la confiance qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, de la manière dont ça se construit. Je connais aujourd'hui des cellules de recrutement, des mecs qui sont à la tête de recrutement dans des grands clubs, qui vont voir des centaines de matchs, qui proposent des centaines de joueurs et qui sont jamais écoutés, oui. Qui sont rarement écoutés.
Pourquoi ?
Par la direction. Peut-être parce qu'il y a des intérêts d'un côté, des intérêts de l'autre. Enfin bon, il peut y avoir aussi ça qui rentre en ligne de compte.
Il y a une certaine frilosité également.
Aller taper que sur les observateurs, ça me paraît un peu. Sur les analystes, ça me paraît un peu.
T'as fait les deux.
Voilà, pour vous dire que simplement que des mecs qui bossent, il y en a aussi. Après, c'est sur les choix, comme tu l'as dit. Quand tu es à Marseille, tu sais qu'à un moment donné, les joueurs qu'il faut faire venir, c'est des joueurs qui ont avant tout du caractère.
Oui.
Des joueurs qui, sous la pression, sont capables de jouer sous la pression.
Avec des grosses.
Non, ça marche pas, ça. Des pongo huevo.
Voilà.
Donc oui, tu as en partie raison. Après, on verra, comme tu l'as dit, il faut rester patient et ne pas non plus s'enflammer mais sur ce qui fait déjà arriver dans une équipe. Pas moribonde, mais malade, à court de forme, et réaliser les performances qu'il fait.
Il est pas à 100%,
c'est presque lui qui redonne de la confiance à lui tout seul, qui redonne de l'oxygène et au club et aux supporters et à son
et à ce qu'il fait, éclabousse toute l'équipe voir le club.
Ouais. C'est assez et du dingue. Coup ça valide du coup les choix de Villas-Boas.
Bah, c'est lui qui le fait venir.
Qui
hein,
est
c'est
en
pas,
train de
hein,
faire muter un peu cette équipe dans le bon sens et qui sur son choix, puisque c'est lui, hein, ah ouais. On va pas se mentir, c'est lui qui
bah
l'a
oui,
vu,
c'est
lui qui l'a
observé
des années,
c'est lui qui l'a voulu. Donc du coup ça vient valider aussi Villas-Boas qui à mon avis est en train de s'imposer tout doucement.
Tu dis que ce mec-là, Dario Benedetto, il n'aurait pu jouer dans aucun autre club en France presque. Qu'il était taillé pour l'Olympique de Marseille. Il le dit d'ailleurs, hein, il est surpris par l'ambiance au Vélodrome, hein, ce qu'il a confié notamment à Flo Germain. Je ne m'attendais pas à une telle ambiance, je retrouve exactement ce que je vivais. Bon, pas uniquement à la Bombonera, mais dans d'autres stades en Argentine.
Exactement, c'est peut-être un petit peu démagogique, parce qu'il n'y a pas deux ambiances comme celle de la Bombonera, mais en tout cas de dire que le public marseillais l'ambiance d'un vélodrome en braise, c'est vrai que ça peut se rapprocher éventuellement. Après, juste Ludo, pour en revenir sur
Pablo, hein, 32-16, vous attend également
sur les observateurs que j'ai pu faire. C'est par exemple toi, je t'ai jamais entendu dire ouais, je l'ai vu, il est nul, alors que tu l'avais pas vu. T'as juste dit que tu savais pas.
Qui a dit ça? Alors là, tu affirmes ça
Mais bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui ont
sur son arrivée était quand même plus ou moins salué par l'observateur.
Nico, on en a entendu. Après un pénalty raté, c'est ben je vous l'avais dit, il est pire que Mitroglou. Ah, je l'ai vu jouer.
Qui dit footix, on dit ça.
Je sais pas quelle compétition, alors qu'il est en Copa América, alors qu'il n'avait pas joué la Copa América avec l'Albi Céleste. On a entendu des gens avoir des avis très tranchés sur le joueur, alors qu'il n'avait pas vu jouer plus de deux matchs, l'aller-retour de finale de Libertadores.
C'est aussi.
Parfois, faut admettre qu'on ne connaît pas. C'est pas grave.
C'est aussi typiquement français de monter les joueurs aussi vite
et de les descendre,
descendre derrière.
Après, il fallait mesurer le niveau également du championnat argentin. Jonathan, tu l'as dit, il s'est affaibli considérablement ces dernières saisons. Dans quelle mesure il fait meilleur buteur de Superliga il y a deux ans avec 27 buts.
C'est pas ça en fait. Moi, au moment où il arrive, je vous dis que si je suis confiant, c'est parce qu'il a montré qu'il était capable de performer dans des environnements à trop de pression. Le mec qui se fait les croisés, qui revient, qui est pas encore à 100%, on le met en demi-finale de Copa Libertadores contre Palmeiras. Le mec il plante à chaque fois et il qualifie Boca à lui tout seul au Brésil même. Tu te dis le mec quand même, il a quand même quelque chose.
Ouais, après le contraste aussi, le contraste des gens se fait aussi sur les annonces qui ont été faites par le club. C'est-à-dire quand le club t'annonce aussi qu'on va investir sur des jeunes talentueux à fort potentiel et que derrière tu prends un attaquant de 29 ans, il y a aussi un décalage.
Qui n'a jamais connu l'Europe.
Il y a aussi un décalage entre ce qui a été annoncé et ce qui se fait. Et donc c'est pour ça que les gens aussi ont été déstabilisés.
Il y a des gens qui savaient. Juste, je fais un gros bisou à Mathéo de la Peña de Boca française. Rejoignez-nous au Volver voir les matchs de Boca. Ouais. Et à Nico de Lucarne Opposé qui lui aussi a dû éduquer les gens sur qui
il y a un repas gratuit là, au Volver. Ça y est, c'est
pas
fait.
Du tout.
Pablo, 32-16.
Tu sais, Jonathan, c'est un oiseau de nuit. C'est pour ça qu'il regarde les matchs quand il rentre de boîte à 3h. Il peut regarder les matchs.
Allez, salut Pablo.
Pablo, supporter de l'OM, salut Pablo, merci de ta patience également. Et bienvenue dans l'after.
Salut Pablo.
Que dire à part que Jonathan, en fait, là, je soutiens complètement et à 1000% ce qu'il vient de dire, en fait, à savoir que les Français, la critique très facile, et après on est dans le retournage de veste le plus rapide de l'histoire, en fait, à propos de Benedetto. Parce que autant on s'était trompé sur Mitroglou dans le recrutement, autant les connaisseurs de football et ceux qui regardent un peu la Copa Libertadores, en plus qui diffusaient sur vos antennes, hein, on savait que Benedetto c'était pas un peintre. On le savait très bien. Moi, le fameux match contre Palmeiras, en fait, j'étais tombé dessus avec mon padré en fin de soirée une fois, et on l'avait regardé, j'avais dit c'est qui ce mec. Et après coup, je m'étais dit plein, un mec comme ça en Europe, bon, alors, à l'OM, ce serait complètement compatible. Et je suis tellement content qu'il soit là. Je suis très très heureux qu'il soit là. Après, évidemment, faut pas s'enflammer. Ça fait que trois matchs qu'il joue, 4 buts. On en a eu des mecs aussi qui ont été des étoiles filantes, mais j'ai tendance à croire que ça va être mieux qu'une étoile filante et que cette année, il va quand même nous faire plaisir à Marseille.
C'est dans le jeu, c'est performance dans le jeu qui nous laisse croire que ça peut perdurer.
Ces gestes, ces buts, des vrais buts d'attaquant.
C'est des déplacements,
une touche de balle, quoi, des reprises et déplacements.
Déplacements surtout qui sont excellents.
Ça a du sens quand même ces 4 buts en 5 journées, le 2 pour toi.
Ah bah ça a tout à fait du sens. Il est récompensé du travail qu'il fournit. Il est c'est le premier défenseur. Il presse comme un malade. Il est sur tous les ballons. Dès que même tu te rappelles son premier match quand il rentre en jeu, c'est lui qui impulse tout de suite, il va faire une faute à un moment donné.
Une faute directe. Une faute directe.
Direct.
C'était pas contre Nantes, c'était le match contre Reims.
Contre Reims.
Le premier ballon, il va au Turbin.
Et quand ton premier attaquant, à l'image de certains, hein, qui impulse un pressing, qui sont forts dans les duels et tout, derrière ça pousse toute l'équipe. Ils sont obligés de se mettre au diapason. Et puis moi c'est la qualité de ces appels. Ouais. Et quand t'as des passeurs autour, Thauvin, bon bah alors il reviendra un peu plus tard, mais bon, comme Dimitri Payet, comme d'autres, eh ben je me dis que ce garçon, si t'es un peu inspiré, bah, il te donne un florilège de possibilités sur la qualité de ses déplacements.
Pablo, t'es sous le charme, toi, évidemment, de Dario Benedetto. Tu penses que ça va durer ou pas?
Moi, j'y crois. Si je blesse pas dans la saison, ça peut, sur la durée, ça peut être cool. Après, voilà, le problème, c'est qu'on a un attaquant, quoi. Et je vois pas s'il se blesse, je vois pas Valère Germain faire tout
le temps. Il y a Marlon Hacquet, du centre de formation.
Pardon?
Il y a Hacquet, du centre de formation.
Oui.
Puisque tu parles de Germain, justement, c'est intéressant parce qu'il est en train de rebonifier Valère Germain.
Il a fait un bon match contre Monaco.
On a vu les prémices d'une complicité quand même. Il y a quelque chose.
Et je serais prêt à dire que faire un match ou pas sur Valère.
Deux ensemble, en fait, dans un 4-4-2, voir si justement avec un mec comme Benedetto, ça peut pas libérer Germain.
Eh ben Pablo, tu sais quoi? J'ai l'impression qu'un mal pour un bien, que la blessure de Flo Thauvin, je me demande si ça va pas pousser Villas-Boas à changer son fusil d'épaule. On sait qu'il est un petit peu limité en joueur offensif parce que sur le côté gauche, c'est Radonjić, hein, les gars. Côté droit, il y a juste Bounassar. Liadji est blessé, à quelques pépins physiques, donc t'es un peu démuni. Je me demande si avec l'arrivée de Valentin Rongier, tu passerais pas en 4-4 de losange. Avec Payet derrière la doublette Germain Benedetto et puis un milieu avec au choix Strootman ou je ne sais qui devant la défense avec Sanson, Lopez et Rongier. Et où Rongier?
Ouais, ce serait pas mal en tout cas. Moi j'aimerais bien voir en fait un petit changement parce que j'ai quand même un peu du mal avec le 4-3-3 de Villas-Boas. J'ai l'impression que le terrain.
C'est surtout par rapport à l'utilisation de Payet, hein, Pablo.
Ah oui, carrément.
Merci Pablo. Excellent soir à toi. Dis-moi, vas-y.
S'il y a un club de Ligue 1 qui m'écoute, s'ils ont besoin d'un recruteur en Amérique du Sud, je vais y aller, moi.
On va tous y aller. T'irais où, toi? Buenos Aires, Rio?
Moi j'irai à Buenos Aires.
C'est la ville mondiale du foot.
Il y a tellement de clubs.
Franchement,
tu sais aussi le problème qui vient s'associer.
Merci Pablo.
Ciao Pablo.
Merci à vous.
Salut Pablo.
Bon match demain.
Qui vient s'associer à ce que vient de dire Jonathan? C'est que beaucoup de gens dans le football français minimisent les performances des autres championnats.
Ethnocentrique.
On a l'impression que dans les autres championnats, quand on parle de Gignac au Mexique, on dit bah oui, bon, mais il est au Mexique, c'est pour ça qu'il.
Souvent
qu'il
on se dit attends, c'est quel niveau? C'est niveau Ligue 2 nationale?
Non, c'est niveau bonne équipe de Ligue 1.
Je peux en parler parce que j'ai beaucoup voyagé.
Ouais.
J'ai fait le championnat turc, j'ai fait le championnat
israélien.
J'ai fait le championnat israélien. Et je peux te dire qu'il n'y a pas que chez nous que ça bosse bien. J'ai eu une passe d'armes à un moment donné avec le président actuel du FC Metz quant à un éventuel retour où il a laissé penser que finalement je m'étais exilé dans des championnats entre guillemets exotiques et que j'avais pas la capacité et le talent finalement de revenir dans la Ligue 1. Mais j'avais envie de lui dire, mais en Israël, quand j'étais en Israël, tu prends les 4-5 premiers clubs israéliens, il y a 70% des joueurs de ces clubs-là, ils jouaient facile en première division. Donc voilà, il faut aussi regarder ce qui se passe ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que chez nous que ça bosse bien, et il n'y a pas que chez nous qu'il y a de la qualité.
Exactement.
Hashtag RMC Live, que beaucoup de réactions à la vie tranchée de Jonathan Macardy, c'est du 100%, Jonathan, président. Eric Charan nous dit, du très grand Jonathan, sublime analyse sur Pipa. Derrière, ça réagit également à l'affiche de votre combat, messieurs, en décembre, évidemment, bien sûr.
Et n'oublions pas la conclusion de la vie, qui est de dire, attention. C'est le début de saison, on va voir.
Ça, tu prends aucun risque, c'est bien tard.
Non, c'est pas, je prends vrai. Attends, d'ailleurs, prochainement.
Le mec, il part dans tous les sens, il est surenthousiaste, mais attendons quand même.
Le gars est parti à 200 km/h, mais arrivé au.
Il met un petit coup de frein quand même.
Non, il met la ceinture quand même.
Prochain avis tranché, et j'insiste là-dessus, je dirais arrêtons le délit de sale gueule sur Max Lopez.
Probable, Marseille-Montpellier demain, 17h30, évidemment, débrief dans l'after demain soir de ce Marseille-Montpellier.
Tu peux pas dire ça parce que ça, tu le fais avec Sanson.
Montpellier, info RMC Sport, Florent Germain. Sakai vers un forfait pour ce match contre Montpellier. Gêne musculaire au mollet contracté avec la sélection japonaise. Est-ce que vous avez vu au passage l'interview de Sakai?
Elle est géniale.
Il y a un passage magnifique. Ouais. Quand le journaliste demande à Sakai, quand le journaliste lui parle de Vincent Labrune, réaction de Sakai, il fait. C'est qui Vincent Labrune? Le journaliste lui répond, c'est le mec qui était embauché en 2016, il fait. Ah oui, mais il est parti vite, lui.
Après, ça il a surtout connu Chico Longhi et Pieter.
Oui, binôme. La compo de l'OM, Mandanda, Sarr, Camara, Alvaro, Amavi en défense. Amavi, il joue tous les matchs, c'est incroyable. Lopez,
ouais, mais parce qu'il n'y a pas d'autre.
Non.
Il a un peu de départ, il a coupé ses cheveux, ça va mieux. Lopez, Trotman, Sanson, mieux terrain. Germain ou Radončić, Benedetto, Payet. Composition probable selon Flo Germain à Marseille pour Marseille, Montpellier. Dans un instant, la vie tranchée. Non. Le mea culpa, mieux que ça, on adore l'humilité de Ludo Bragnac. Il s'est trompé, cet homme-là.
C'est un petit.
Il va le reconnaître.
Un demi.
L'after dans un instant.
Un demi culpa.
Jonathan. Aucun sens. Jonathan Macardy, Ludovico Bragnac, on est ensemble jusqu'à minuit. Simone Rovera arrive également, messieurs.
Ah ouais,
Simone
tables,
sera avec nous. À tout de suite.
RMC. L'after foot. Nicolas Jamain.
Avec Ludovic Bragnac, au Bragnac, avec Jonathan Macardy. Dans un instant, Simone Rovera entrera dans la danse de l'after du vendredi soir.
Non, il peut danser sa place, l'after. Non, ben non. Mais non.
Mais si, il est élégant.
Il y a l'after de l'élégance
italienne. Oui, mais il a la classe.
Ouais, mais est-ce qu'il peut danser, Simone?
On nous parlera du derby italien, bien sûr. Vous connaissez, vous savez comment on appelle ça, le derby Milan?
Le derby de la non.
De la Madonnina. Demain, 20h45. Et puis également de la Juve. Pourquoi Adrien Rabiot ne joue toujours pas? Quasiment un mois sans une seule minute de jeu pour Adrien
Rabiot.
Et Blaise, il a marqué. T'imagines l'histoire, il y a un mois et demi, tout le monde se disait, apparemment, Blaise sera pas sur la liste de Ligue des Champions. Il joue tous les matchs,
belle,
il marque la Ligue des Champions.
Elle est belle, là,
Nico. Bref.
Le karma, mon pote.
Ça, exactement.
C'est une vraie.
Il nous dira pourquoi, parce qu'il y a des raisons, quand même. C'est pas la faute, forcément, d'Adrien Rabiot. On en parle dans un instant avec Simonet qui nous attend depuis.
Après, c'est juste logique.
Turin.
T'as rien fait depuis 6 mois.
Bah,
t'as pas joué pendant 6 mois.
C'est ce que dit Sarri également.
Et t'es reparti dans une préparation qui complètement différente de la préparation à la française. Oui. Et il a forcément le contre-coup, c'est obligé.
Normal.
C'est l'heure du mea culpa, et on aime ça dans l'after de Ludovico Bragnac.
Nous, dans ce championnat, on sait qu'on est, on se situe quelque part dans là où on est actuellement.
T'es où actuellement là? T'es avec nous, et moi j'aime bien ce genre d'exercice, parce que beaucoup de gens dans l'after ou ailleurs oublient qu'ils sont trompés à un moment. Ou en tout cas, qu'ils ont un peu exagéré, qu'ils sont allés trop loin dans leur propos.
Je pense que Ludo, comme moi, on n'oublie pas.
Oui. Écoute, déjà revenir sur le rôle de consultant, puisque consultant, c'est à mon avis, c'est réagir, analyser sur un match comme on vient de le faire en direct. Donc, il peut y avoir différentes analyses en fonction des sensibilités de chacun, mais c'est aussi donner un avis sur des faits qui ne sont pas encore arrivés. Donc, des fois, il peut arriver qu'on s'avance, qu'on donne un avis, et ça peut arriver
qu'on se plante.
Et ça peut arriver qu'on se plante, parce que le football. Personne n'a la science infuse dans le football. Il y a pas de logique. Tu peux prévoir quelque chose qui paraît sûr, tu peux avoir le contre-coup, ça peut être l'inverse. Voilà, il faut avoir l'humilité de dire quand on se trompe. Et en sortant de cette émission, après le match du PSG contre Strasbourg,
samedi
où
soir,
on avait parlé entre parenthèses d'Idrissa Gueye, je tombe sur un taxi qui me ramène qui me ramène le lendemain matin, du coup, à la gare pour rentrer à Lille.
Ah, ça, quand tu te lèves tard à minuit, après tu vas directement.
Non, il m'a ramené.
T'es allé dormir?
Non, je suis allé dormir et il m'a pris le matin pour aller à la gare. Et bizarrement, le mec rigole dans la voiture et le mec en fait était en train d'écouter le podcast en même temps, le podcast de la veille.
Le deuxième podcast de France.
Et le mec me dit, putain, mais j'avais trop envie de débattre avec vous sur le cas Idrissa Gueye parce que je suis pas d'accord avec vous. Et donc on commence à débattre tous les deux, il avance ses arguments, il avance les miens, puis finalement on arrive à trouver un terrain d'entente. Mais c'est vrai qu'il m'a amené à réfléchir un peu sur le sujet. Je suis rentré chez moi, j'étais un peu déboussolé, donc j'ai commencé à réfléchir un peu, à revoir des trucs, et je me dis, putain, il a quand même créé chez moi une espèce de...
Un doute
Ouais, il a créé un doute. Et du coup, forcément, quand je vois le match qu'il a réalisé... Alors, on était parti au départ sur le fait que moi, je ne pensais pas qu'il pouvait évoluer, en tout cas sur... Alors, les gens veulent plus qu'on dise sentinelle, apparemment. Donc,
de quoi,
sur le poste de triangle point de basse, on va dire, dans un milieu à trois.
C'est point de basse, maintenant. Voilà. Il y a eu 10 ans de sentinelle, maintenant c'est point de basse.
Donc voilà, moi, j'avais des doutes à ce niveau-là, et j'avais des doutes sur sa capacité à pouvoir faire jouer les autres autour de lui,
ouais,
quand le PSG aurait le ballon, ou du moins qu'on serait jouerait un peu plus offensif. Force est de constater que le match contre le Real de Madrid est venu annihiler beaucoup de choses. Ouais. Donc voilà, ce soir, j'ai envie de me dire, voilà, ça peut arriver de se tromper. Ce qui est assez marrant, c'est que les gens aussi, on peut avoir 500 matchs de haut niveau, aimer regarder le foot juste simplement, pas le pratiquer, mais le regarder et être passionné. Voilà, la vie de chacun compte.
Et j'en profite pour saluer justement Habib, qui est ce fameux chauffeur avec,
bah,
qui
quoi,
avec qui j'ai échangé.
Habib, Habib est là.
Oh non.
Habib est au téléphone avec nous, le chauffeur officiel de Ludovico Bragnac. Ah, okay, hein.
Bon, il a un chauffeur officiel.
Salut Habib.
Salut les amis.
Oh, Habib, l'homme qui a créé le doute dans l'esprit de Ludovico Bragnac.
Non mais c'est extraordinaire. Vous m'entendez bien là?
Très bien. Vas-y. Attends, t'es pas en haut-parleur là parce que t'es un peu loin.
Attendez,
quand même.
Je vais l'enlever.
Ouais, prends ton téléphone directement. Est-ce que c'est bon pour toi?
C'est mieux là?
Nickel.
Allez, vas-y Habib.
Ok. Attendez les gars, je vous raconte, mais c'est extraordinaire. Donc j'écoute. Donc samedi, je regarde le match PSG Strasbourg. Le soir, je travaille, je suis sur Paris et tout, je bosse. Je me dis bon, attends, je vais me faire le podcast là, je vais écouter. Je me dis, mais obligé, c'est sûr que Ludovico Bragnac il va parler de Ganagay, c'est sûr. Et effectivement, Ludovico Bragnac parle de Ganagay. Et moi, j'étais sûr que ce match-là, il allait nuancer ses propos et tout. Ça allait parce que Ludo, il nous disait souvent, non, ce qu'il fallait à Paris, c'était un mec comme Mendes et tout. Bon, moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Au début, j'étais d'accord avec lui. Et après le podcast, je vous assure, vous savez ce que je me dis? Je me dis, mais je vais appeler. Je sais pas quand est-ce que Ludo Bragnac, il passe sur RMC, mais dit, il faut que je lui parle, c'est pas possible. 8h du matin, bon, je travaille, je tourne, je dirais pas vers quel secteur j'étais. Je vois quoi? Je reçois une course radio, Ludovico Bragnac.
Ah, mais c'est magnifique, comme ce monde est bien fait.
Non, mais véridique, les gars.
Ça tombe du ciel.
C'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible. J'arrive, je me dis, bon, c'est peut-être un gars qui s'appelle comme lui, je sais pas et tout. J'arrive, je vois un mec tatouage, je dis allez c'est lui. Je vois tatouage dans le bras, j'ai dit c'est lui, c'est sûr. Il monte, mec super gentil, bonjour monsieur, bonjour.
Ah, il est très gentil Ludo.
Vous allez où et tout, bon on y va, d'accord, je le dépose et tout. Et dans la voiture, j'esquisse un sourire, je me dis mais c'est pas possible. Et je voulais pas le déranger au début, je me dis bon peut-être voilà c'est le matin, il a peut-être pas envie de parler foot et tout. Et je commence à lancer le sujet foot et je vois qu'il est réceptif et il a envie de parler et tout. Et donc on discute. Mais franchement, super moment, c'était vraiment super. On a discuté et tout, super, super ouvert, très gentil et tout. Et voilà, et moi j'étais, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été un fan de ce joueur. C'est-à-dire j'ai toujours dit moi, même l'année dernière, j'ai dit Paris a fait une erreur de ne pas le faire signer. Dans le sens où je trouve qu'il a un QI foot, je parle pas là de... je trouve qu'il a un QI foot exceptionnel.
Ouais, lecture du jeu très fine.
Franchement, je trouve qu'il a un QI foot exceptionnel, voilà. Et donc on a échangé et Ludo il a avancé ses arguments et tout. Bon, sur le fond j'ai dit bon je vais attendre peut-être qu'il a raison et tout. Et là le soir du match contre le Real j'ai rigolé, j'ai pensé à lui, j'ai dit bon. Et voilà, et donc ça me fait plaisir de passer avec vous.
Mais c'est sympa Habib, c'est cool de t'avoir dans l'after bien sûr. C'est des histoires d'after. Ouais. Ouais, c'est l'occasion de rappeler que RMC c'est aussi la radio des taxis en France.
Mais c'est l'occasion.
Quasiment tous les taxis ou une grande partie des taxis.
On les salue.
Écoute RMC et l'after en particulier, on les salue bien sûr.
Mais ce qui est bien avec Habib, c'est qu'il me donne un avis avant le grand match d'Idrissa Gueye.
Et les VTC.
Parce que combien se sont tus? Parce que moi, ici, dans l'after, on prend des positions. Et on se mouille.
Et
combien se sont tus jusqu'à maintenant et qui viennent maintenant te sortir
gars,
qu'ils ont toujours été fans
de Ludo Gueye. Attends, les gars.
Et que c'est un super joueur et qu'ils le savaient.
Les gars. Il a fait un énorme match contre le Real, ok? Avant ça, au PSG. Ses sorties n'étaient pas non plus incroyables.
Personne n'en a vraiment parlé. Personne n'en a vraiment parlé.
Oui, c'était bien, mais c'était pas non plus.
Non, mais je vais vous dire la température du côté des supporters parisiens. Et moi, j'étais d'accord avec ça. C'était de se dire pourquoi il va nous refoutre, il nous fout pas Ander Herrera, par exemple, sur la pelouse, quoi. Plein de gens qui hallucinaient.
À savoir, il y a beaucoup de gens qui ont dit il va être utile parce qu'on n'a pas ce profil-là. Vous pouvez être d'accord sur ça. Moi, sur le fait qu'il allait être utile parce qu'il n'y avait pas le profil, j'étais OK avec ça. Par contre, je ne savais pas ce qu'il pouvait apporter. J'avais. En aucun cas dans l'idée, je ne l'ai pas vu faire ça beaucoup à Everton la semaine dernière, de faire jouer les autres comme il l'a fait offensivement, une touche, deux touches, d'apporter de la vitesse dans le jeu.
On savait qu'il grattait beaucoup.
Moi, le doute que j'avais sur Gueye, c'était au niveau du profil. Pour moi, la priorité du recrutement du Paris Saint-Germain,
parce qu'on avait parlé de cette fameuse sentinelle. Voilà.
Et là, je fais mon mea culpa parce qu'on ne sait pas qu'il aurait ce niveau-là, mais... Je pense aussi qu'il a été aidé de jouer un petit peu plus haut avec la présence de Marquinhos en sécurité derrière lui. Je pense que ça l'a aidé.
Ouais, ça joue aussi.
Ça l'a aidé. Il a pas joué sentinelle sur ce match-là.
Et comme c'est un chasseur, il aime bien aller plus haut. Tu vois,
Ludo,
le nombre de ballons,
il
a été gratté un peu plus haut dans les pieds des milieux de terrain.
Mais parce qu'il n'a pas joué sentinelle. Et je pense que la grosse erreur de nombre de personnes, c'était de penser que Gay venait en tant que sentinelle. Nous, ce qu'on s'est évertué à rappeler pendant l'été au moment de sa signature, c'est de rappeler que par exemple avec le Sénégal, il joue quasiment numéro 10 et que c'est un joueur qui a un vrai box-to-box, un vrai milieu relayeur. Et c'est tout sauf une sentinelle. C'est tout sauf cette pointe basse du triangle. Et la preuve, ce match-là, il est énorme, mais il a quand même Marquinhos qui fait la sécurité derrière.
Voilà pour
les gars,
le PSG.
Je suis toujours à l'antenne.
Ah ouais, Habib, t'es là, vas-y.
À mon crédit, j'ai toujours défendu Marquinhos en 6.
Vas-y, Habib, vas-y.
Ouais, rapidement, donc j'en profite pour passer une dédicace à un mec qu'on appelle Chevreuil. C'est un fan inconditionnel de Ludo Bragnac, d'accord?
Chevreuil est fan de Ludo.
Ouais, il s'appelle Chevreuil, il a dit, hein, il l'a surnommé.
Et pourquoi il est fan? Il est un supporter du Maccabi, Lille, de Metz?
Non, du tout. Non, c'est un supporter du Paris Saint-Germain, mais il a déclaré Ludovico Bragnac meilleur chroniqueur de, je sais pas, dans son microcosme à lui, mais en tout cas, c'est son.
Venant de Chevreuil,
Habib, je peux dire, c'est pas le seul à le penser.
Il y a un de vous. Une dernière chose, après, je vous laisse. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait participer à l'émission. S'il vous plaît, s'il y a un journaliste de RMC qui se pointe en conférence de presse là-bas, du côté de Saint-Germain-en-Laye, qu'il demande, s'il vous plaît, absolument à notre ami Tourelle. D'accord ? Qui m'explique pourquoi Meunier ne joue pas. D'accord ?
Oui.
Voilà. Oui. S'il vous plaît, s'il y en a un qui peut faire ça un jour en conférence de presse, c'est
mais
quoi
là, ça, je crois, Habib, que là, à mon avis, on est sur.
C'est un problème d'homme.
C'est personnel, quoi. Ouais. À mon avis, on est sur un délit presque de sale gueule, même s'il est plutôt beau gosse.
Aussi,
je crois qu'il y a un petit problème de relation entre les deux, là.
Ludo, en tout cas.
Salut, Habib, merci.
Merci, Habib.
C'était cool de t'avoir.
C'est sympa. Et puis, écoute, on espère entreprendre dans mon taxi prochainement.
Eh ben, écoute.
Les taxis, beaucoup de taxis, écoute, l'after.
Ouais, oui, salut, taxi. Merci, Habib. Excellente soirée.
Bonne saison à toi.
Sois prudent sur la route, bien sûr.
C'est une belle surprise.
Bah oui, moment de monde d'histoire. C'est ça aussi, l'after.
Mais non, c'est l'after de l'élégance.
La vie, on le donne à tout le monde, sur la RMC en général et dans l'after en particulier, bien sûr. Et on dénigre aucun avis. Et sur le foot, surtout. On revient dans un instant. On dénigre pas non plus le travail de Simone Rovera, quoique Jonathan dénigre un peu en ce moment.
Non.
Notre nouveau correspondant en Italie, il était là cette semaine, hein. Il est venu à Paris. Hein, Simone.
Il était en forme.
Il était en forme.
Non, je demande. Je
Simone arrive voilà, du derby milanais, évidemment, le Milan AC contre l'Inter, c'est demain. Et la Juve, Adrien Rabiot, les infos depuis l'Italie. Et puis le quiz, reste avec nous, un quiz original en fin d'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Nicolas Jamain,
Ludovico Bragnac, Jonathan Bacardi, l'after comme tous les soirs, on est ensemble jusqu'à minuit. Il nous reste 20 grosses minutes, messieurs, pour évoquer dans un second temps les dernières infos avant la journée de Ligue 1, la 6e demain. Mbappé pourrait rejouer dès ce week-end. Entraînement collectif hier, entraînement collectif aujourd'hui, dimanche. PSG face à Lyon.
Oh, ok. Non,
mais c'est une info quand même.
Bah, l'info, c'est que l'info, c'est qu'Hiroki Sakai est forfait demain. Arrête avec ça. Second plan. Hiérarchise tes informations, s'il te plaît.
Simone Rovera est avec nous. Salut, Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Salut, ça va, Simone? T'es bien rentré en Italie?
Très bien. Long voyage, mais bon, écoute, on fait tout pour être présent quand il faut. Et ici, quand il y a les gros matchs, pour vivre à plein l'atmosphère d'un week-end magnifique.
Demain 20h45.
Est-ce que Simone est le Fred Hermel de la Juve? Est-ce qu'il a la place devant? Il a la primeur.
Je suis pas sûr qu'on le reconnaisse encore dans la rue.
La primeur de question. Est-ce que tu as.
On t'arrête à Turin ou pas? Non, parce que il est vu en France.
À Turin, oui. Tu essaies de gagner tes galons, Simone, ou t'es déjà installé ou pas?
Non, je suis pas encore installé, mais après aujourd'hui je rentre sur Turin. La conférence de presse c'était le matin, j'ai rentré après midi. La semaine dernière c'était la même chose, donc tu sais, voyager, être citoyen du monde, ça veut dire.
Oh non, pas cette expression interdite. Citoyen du monde, c'est interdit.
Non. Ok, Simone, gros week-end en Serie A évidemment demain à 20h45. Le derby milanais, le Milan face à l'Inter. Inter leader de Serie A. Hein. 3 matchs, 3 victoires avec Antonio Conte, mais tenu en échec en Ligue des Champions, en surprise, cette semaine par le Slavia Prague, un but partout. Simone, il paraît qu'on cherche une taupe à l'Inter.
Oui, c'est un peu le gros problème de la semaine. L'histoire est très simple. Match plutôt pourri en Ligue des Champions, les choses vont pas bien, l'Inter ne se retrouve pas, et dans les vestiaires, à la fin du match, il y a une confrontation normale, on me dit rien d'extraordinaire, des choses qui se passent chaque fois dans chaque vestiaire, un joueur qui demandent un peu plus de travail des autres, une qui se sent visée. Il y a même pas des contacts physiques vrais. Il y a vraiment une échange de mots un peu dur et les deux qui se rapprochent. La chose qui est
tu parles de qui là?
Brozovic et Romelu Lukaku. Eh
ouais.
Une des leaders de la saison dernière face au nouveau arrivé, mais Brozovic était un de ces joueurs qui avait un peu des soucis avec Mauro Icardi, qui faisait sentir sa voix dans le vestiaire. Donc Brozovic, c'est pas quelqu'un qui aide à mettre tout le monde à l'aise. C'est quelqu'un qui, s'il n'est pas content, il le dit. Et fait comprendre un peu sa frustration parfois. L'histoire qu'on m'a racontée, parce que j'ai passé beaucoup de temps au téléphone ces dernières heures, c'est qu'un événement tout à fait normal dans la vie de vestiaire, rien d'extraordinaire, ça devient quelque chose qui est sur tous les journaux. C'est-à-dire le lendemain du match, pas le lendemain du match, les jours suivants, c'était sur tous les journaux. Il y avait plus ou moins la même version avec quelque chose de plus grand que ce que ça
arrivait. Le clash Brozovic-Lukaku.
Voilà, mais ce qu'il y avait écrit sur les journaux, c'était beaucoup plus de ce qu'on m'a dit que s'est passé dans le vestiaire. Donc aujourd'hui, Antonio Conte, même en conférence de presse, était très énervé en disant dans les passés, il y a d'autres clubs qui sont capables de gérer ça mieux, en faisant bien sûr qu'il parlait de son expérience à la Juve. Ici, il faut encore travailler sur ça pour être capable de gérer les choses à l'intérieur sans que ça sorte. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelques joueurs qui n'est pas content en ce début de saison à l'Inter et n'a pas perdu l'occasion de faire un peu éclater quelques...
Ah oui, c'est ça. Donc, il y aurait bien une taupe dans le vestiaire de l'Inter. Parce que le vestiaire est fermé désormais. Antonio Conte a viré quasiment tout le monde autour de l'équipe pour rester avec ses joueurs uniquement et son staff. Donc, ça veut dire que quelqu'un a balancé.
Même pas les attachés des presses. Et surtout, on m'a expliqué qu'il y a presque un cordon de sécurité. Même des gens du San Siro, etc., des gens qui travaillent à l'intérieur, ne peuvent pas s'approcher à une certaine distance du vestiaire. Donc, même s'il y a quelqu'un qui gueule dans le vestiaire, c'est presque impossible de l'écouter.
Un vrai faux clash crée d'ailleurs une polémique parce qu'une info sort du vestiaire. T'as déjà connu ça, Ludo? T'as déjà cherché une taupe dans une équipe ou pas, toi?
Ouais. À une certaine époque, ouais, avec Metz. On n'a pas trouvé d'ailleurs.
On n'a
jamais trouvé la taupe.
T'avais des soupçons, des doutes.
Jamais,
généralement. Est-ce que Patrice Evra l'a trouvé la taupe en équipe de France?
Mais il y avait des soupçons. On se regardait tous en chien de faïence dans le vestiaire parce qu'il y avait des infos qui étaient sorties sur le fait que un avait donné des infos par rapport au match Lyon-Metz où on avait perdu 4-0. Et il y avait eu des rumeurs comme quoi il y avait eu des mecs qui avaient parié ou du moins qui avaient baissé de pied ou un truc comme ça. Donc tout le monde se regardait un peu dans le vestiaire un peu bizarrement. Et c'est vrai qu'il y avait des infos qui étaient sorties. Et on cherchait la taupe.
Mais ça peut créer une ambiance compliquée sur la durée.
Je te le confirme.
Quand tu cherches une taupe ou un traître, ça peut altérer clairement l'ambiance.
Je voulais rebondir, Simone, sur Lukaku. J'ai vu un truc qui est passé qui paraît complètement lunaire d'un mec qui a parlé dans une émission. Alors je saurais retenir le nom. Je ne saurais retenir le nom et qui a dit un truc mais qui paraît qui paraît pas mais qui est dégueulasse. Est-ce que ça a fait grand bruit là-bas? J'ai l'impression que tout
les propos. C'est quoi le truc?
Il a dit Lukaku pour l'arrêter. Il faudrait lui jeter des bananes.
Il faut lancer 10
bananes. Il a dit le monsieur. C'est un vieux monsieur de 80 ans.
Un vieux con.
Ancien dirigeant de l'Atalanta. Qui, même s'il s'est excusé, il s'est rendu compte très tard d'avoir dit une chose vraiment horrible, une phrase raciste, une bêtise énorme. Et la télévision, Télé Lombardie, la télévision avec laquelle j'ai fait plusieurs émissions quand je suis en Italie, très belle télévision, les directeurs n'ont pas pu que communiquer que cet invité ne sera plus jamais invité dans l'émission, comme c'est logique.
L'accueil de Lukaku, pour l'instant, en Italie, c'est compliqué.
C'est catastrophique.
Hein. Entre les cris de singe qui descendent des tribunes et des propos comme ça d'anciens dirigeants presque séniles.
On est en 2019,
réac et racistes.
Il est costaud.
Je pense que tu as dit le bon mot.
Il est costaud, il les aura à l'usure.
Et même on est en 2019, c'est quand même malheureux quoi.
Simone, un mot sur le Milan quand même. C'est un vrai premier test pour le Milan AC.
Bah oui, un vrai test pour le nouveau Milan de Gianpaolo qui devrait proposé les visages quand même de la saison dernière. Donc, on parle beaucoup de Bilia qui devrait être qui a un bon avantage aujourd'hui sur Bennacer pour le rôle de sentinelle.
Juste, Simonet, il est comment Bennacer depuis son arrivée au Milan? Il nous avait enchanté cet été.
Moi, je le trouve, bon, très intéressant. Après, dès que ça a commencé à s'installer, Milan a joué quand même deux matchs face compliqués parce que c'est face à des promus, mais face à des adversaires plus simples, donc de victoire. Je veux le voir. S'il était titulaire de l'Inter, ça aurait été le test plus intéressant. Moi, je crois que Gianpaolo quand même fera jouer Bilia parce que je vois une Gianpaolo aussi un peu en difficulté, doit trouver quel est le nouveau Milan. Et il y a une similitude, là je fais une transition, entre ce qu'est en train de faire Gianpaolo, qui est un entraîneur pour moi un peu dogmatique dans son vision de jeu, dans sa phase défensive. C'est quelqu'un qui joue très bien, qui fait jouer très bien ses équipes, mais qui a besoin de travailler beaucoup sur certains mouvements et sur ce schéma. Il y a des similitudes avec Sarri. Et même Maurizio Sarri va continuer et continuera encore ce week-end à faire jouer la même équipe. Il a dit aujourd'hui, j'ai pas besoin de faire tourner, c'est en Italie que vous êtes fixé avec l'histoire des turnovers. Moi, j'ai besoin aussi de continuer à travailler avec les mêmes joueurs pour arriver là où je veux, au mouvement,
sauf
au travail.
Il y a 45 milieux de terrain, ils en ont recruté 15.
Simonet, sauf que Sarri, on le connaît. Au Napoli, il a fait acheter des tonnes de joueurs à De Laurentiis et les a jamais fait jouer. Il reste avec des groupes très restreints d'aller 13, 14 joueurs maximum et tout.
Ouais, c'est avec la saison.
Et donc,
j'ai encore en tête à la gorge Valdi Fiori qui fait venir au Napoli qui a jamais joué.
Voit pas le Di Fiori, c'est vraiment l'emblème le plus, une des symboles de gâchis de Maurizio Sarri avec Rogue.
Dis-moi, est-ce que Adrien Rabiot ne va pas être un gâchis?
Tout ça.
Parce qu'Adrien Rabiot, depuis le 24 août, Simonet, depuis le 24 août, 0 minute de jeu.
La tête à Toto.
Adrien Rabiot, plus rien. Sarri en a parlé en conférence de presse.
Il a parlé aujourd'hui, il a dit que quand même son niveau physique c'est meilleur comme celui d'Aaron Ramsey. Nous on se concentre sur Adrien Rabiot, bien sûr, on est une émission radio française, mais Aaron Ramsey aussi, bien sûr, il revient de blessure. Mais Aaron Ramsey c'est un joueur important à Arsenal, pour l'instant on
blessé
le voit
depuis
pas.
Mars,
on considère demain que les milieux de terrain ça devrait être Khedira, Matuidi et peut-être Betancourt, vu que Pjanic est un peu fatigué. C'est un peu la grosse incertitude. Pour les amoureux de Dybala, ça devrait être la journée de Dybala, mais je rappelle que demain la Juve joue face à Vérone, donc un promu, un match plutôt simple parce qu'après il y aura un déplacement mercredi à Brescia, autre promu, mais attention, mercredi va être la première de Mario Balotelli avec Brescia. Il y aura une ambiance, je pense, un peu plus chaude plutôt de celle de demain après-midi à Juventus Stadium. Moi, je me dis, si Maurizio Sarri ne commence pas à faire tourner demain, quand, c'est pour quand?
Ça devient inquiétant, la
nouvelle.
Parce que tu me dis, le trio à la Juve, Simonet.
Oui.
Le trio à la Juve, c'est, a priori, dans l'esprit de Sarri, c'est Khedira, Pjanic et Matuidi.
Bah, et c'est moi, ça. Je pense qu'on va continuer avec ça longtemps.
Ouais, sauf que derrière, t'as Ramsey qui va revenir. T'as Betancourt qui est là aussi. Rabiot, mais est-ce qu'il va récupérer même pas des miettes Rabiot cette saison à la
Juve? Moi, je rappelle que Danilo joue parce que De Ligt est blessé et De Ligt joue parce que Chiellini est blessé.
De Ligt, il est pas bon en plus.
Tous les mercato, pour moi, c'est pas extraordinaire. Sur ce début de saison, après, c'est un joueur magnifique.
Oui, il faut juste un peu de temps
travailler. Sur ce début de saison, il y a dans la tête de Sarri, il y avait zéro titulaire. Zéro nouveau recrue titulaire. C'est
peut-être Pipita qui est une sorte de recrue.
Ouais, mais Ludo, c'est pas un recrue. Pour lui, c'est pas un recrue. C'est quelqu'un qui a déjà joué à Naples, qui a déjà joué à la Juve. Et donc, c'est pas un vrai recrue. Non, c'est pas quelqu'un qui doit s'habituer aux problèmes italiens.
Ludo.
Non, mais il récolte tout simplement ce qu'il a semé. À un moment donné, t'avais un boulevard au Paris Saint-Germain. Il suffisait d'être un tout petit peu plus intelligent. Tourelle lui file le brassard en début de saison en lui envoyant un message qui va compter sur lui. Il avait largement sa place pour jouer au milieu de terrain au Paris Saint-Germain. C'est son club d'enfance. Il y avait tout pour lui pour réussir là-bas. Tu fais un choix, tu vas dans un des plus gros clubs du monde. Eh ben, il faut accepter la concurrence. Et puis, il va falloir que tu...
Un véreux va commencer à s'énerver.
Il va falloir qu'à un moment donné, t'arrêtes de... À chaque fois qu'il y a un obstacle pour lui, presque il fuit. Là, il va falloir affronter l'obstacle. L'obstacle est plutôt grand.
Et ben, il va falloir, ça va lui changer un peu la Juve
qu'il y a 4 ans au PSG pour lui. Hein.
Mais c'est un garçon, s'il met,
il a toutes les qualités.
Entre des fois où il peut être caractériel, s'il met pour une fois son caractère au service de son talent, ben, je suis certain qu'il peut jouer dans ce milieu à 3 à la Juve. Après, c'est son comportement, vis-à-vis de Sarri à l'entraînement tous les jours qui va dicter aussi les choix de cet entraîneur-là. Si lui fait le taf, et qu'il est excellent et qu'il bosse et ce qu'il n'a jamais vraiment fait finalement et qu'il montre un peu, qu'il sort un peu de son confort, je suis sûr que ce garçon Simone, il a largement la qualité pour jouer.
Sarri la semaine dernière a utilisé un mot que c'est important. Il a dit que au-delà de baisse physique qu'il y a eu Rabiot après un bon début de préparation, il a dit c'est un garçon très sensible.
Très sensible.
Et dès qu'il a vu qu'il a commencé à être moins en forme et ne rêvait pas à peut-être être au niveau des autres, ça l'a touché. Ouais. Donc aujourd'hui, il a dit que les choses vont mieux, qu'il s'est entraîné bien, que son niveau de préparation physique est meilleur. Mais moi, pour avoir suivi Adrien Rabiot plusieurs saisons au Paris Saint-Germain en France, moi, quand il explique qu'il est sensible, moi, ça m'a un peu surpris parce que je voyais pas quelqu'un qui.
S'il est sensible.
Parce qu'il est resté touché du fait de n'être pas en forme.
Mais tu connais son histoire par rapport au foot, par rapport à son père, on va pas la refaire. Ah, juste une observation. Je regrette que le cas de Rabiot n'ait pas été géré par Leonardo. Je pense qu'au final, si Leonardo est arrivé auparavant,
Adrien Rabiot est arrivé 6 mois plus tôt, Leonardo.
Et la question que j'ai pour toi, Simonet, c'est que j'ai trouvé la Juve très friable défensivement contre l'Atlético. Et il y a un joueur qui était un petit peu le fantasme de Sarri quand il était au Napoli ou à Chelsea et que maintenant il l'a enfin à la Juve, qui est Rugani. Pourquoi il joue pas?
Parce que tout simplement De Ligt c'est considéré comme meilleur. Après je t'assure que même Demiral aujourd'hui est devant Rugani dans les hiérarchies. Les problèmes de la Juve défensivement, c'est surtout aujourd'hui les coupes de pied arrêtées qui sont une phase de jeu sur laquelle Sarri est presque maniacal dans son contrôle et pour l'instant il n'y arrive pas. 4 buts sur 5 encaissés cette début de saison sont sur phase de jeu des coupes de pied arrêtées et la zone défensive, parce que Sarri utilise la zone, on dirait qu'elle est mal placée. Il y a toujours un joueur qui arrive à percer au milieu de deux ou des situations où il y a un milieu, un défenseur ou au milieu qui perdent les contrôles de sa zone. C'est vraiment je pense qu'aujourd'hui certains entraîneurs sont plus habiles à mettre en difficulté la zone de Sarri sur le coup de pied arrêté que Sarri à l'organiser. Ça va être compliqué, ça.
Okay. Merci, Simone.
Ciao, Simone.
Excellent week-end de Serie A.
Ciao,
à demain dans l'After, sûrement pour débriefer ce derby milanais. Et la Juve face à, hélas, Vérone à 18h. Messieurs, quelques infos à vous donner. Mbappé, donc, il pourrait jouer dès dimanche contre Lyon. Sakai vers un forfait. Monaco à Reims, sans Slimani, demain à 20h.
Oula.
Sans Ben Yedder, forfait.
Oula là.
Jardim, c'est chaud. Jardim, c'est très chaud.
Et Reims, c'est une bonne équipe.
Mamadou Niang, de retour à Marseille.
Nouveau directeur
sportif de l'Atlético de Marseille, club de National 3.
Ça fait un moment qu'il était là-bas.
Un moment qu'ils sont là-bas.
Maintenant, il est directeur sportif désormais.
Directeur sportif depuis aujourd'hui. Mamadou.
Le beau geste de David De Rea également, le gardien de Manchester United, intempéré en Espagne. Vous avez vu, 6 mois de pluie en l'espace de 5 jours, 7 morts. Il a fait un don, sans le dire lui-même, de 200 000 euros à la Croix-Rouge afin de venir en aide aux sinistrés. C'est la Croix-Rouge qui l'a remercié sur les réseaux. Lui n'avait pas mis en avant son geste, en tout cas. Messieurs, jingle Kikadi.
Ah bon. On vole ça au Moscato Show.
C'est exceptionnel et c'est unique, c'est un événement. Morgan Sanson a dit que Benedetto le faisait penser à
Agüero.
Agüero.
C'est plus Lisandro Lopez.
Sur ce thème-là, messieurs, qui a dit Clinton Enge est un formidable joueur, tellement jeune, il est le futur Eto'o.
Aulas.
Jean-Michel Aulas.
Je me rappelle.
22 avril 2015, son compte Twitter. C'est terrible.
Hashtag vision.
C'est terrible.
Vision.
Qui a dit laissez-moi le. Voilà, très bien. Quel plaisir. Hommage à Adrien.
La Golden Carotte. La
Golden Carotte, non, elle n'aura pas. Qui a dit Marvin Martin me fait un peu penser à Iniesta.
Domenech. Zidane.
International français du Real Madrid.
Benzema.
Karim Benzema, le 6 juin 2011, après un match amical en Ukraine, a doublé Marvin Martin. Qui a dit, sans avoir la prétention, Ludo, 2-0 pour Jonathan, sans avoir la prétention de me comparer à lui, mon style de jeu correspond à celui de Robinho. Ancien joueur du PSG brésilien.
Ah. J'ai sur le bout de la langue.
Recruté par Alain Roche.
Mais oui, ils étaient deux, ils arrivent à deux là.
C'est terrible.
Non, ils arrivent à deux. Everton, mais oui, mince.
Voilà, voilà, d'ailleurs, on l'appelait Jean-Paul
Robinho.
Robinho, après, ouais. On l'appelait. Qui a dit Neymar, c'est un joueur attiré par le but qui, malgré son jeune âge, n'hésite pas à s'engager dans son jeu. Il me fait penser Olas. Aux Anglais Rooney et Owen.
Olas. Juninho.
À Lyon, un dirigeant lyonnais.
Un dirigeant lyonnais.
Lacombe.
Bonne réponse de Ludovic Obraniak en 2004. Qui a dit Fred Adou est le nouveau Pelé en 2002. Le gars, il a joué 4 matchs en Europe. Hein.
Qui a dit ça?
Il était où, lui?
Qui
est joué à Monaco.
Platini.
Non. Il y a un piège. Hein. Qui a dit Fred Adou est le nouveau Pelé?
C'est Pelé.
Pelé l'a dit en 2002.
Pelé a dit ça.
Oui.
Qui a dit « Je me vois très bien suivre les pas de Kylian Mbappé et faire mieux ?»
Augustin.
Non.
Il connaît.
Il est à Monaco. Il a 18 ans et demi. On lui
Jebels.
Jebels, exactement. Celle-là, elle est magnifique. Qui a dit « À travers Ali Sissoko, on retrouve le jeu d'Abidal. »
Olas.
Il va vite. Il est puissant.
Houillet.
Il a fait une campagne de Ligue des Champions magnifique avec le FC Porto.
Lacombe.
Bernard Lacombe.
Ouais.
Ouais, c'est pour remettre les mêmes trucs à chaque fois.
Et pour finir, qui a dit Ludo Bragnac a le pied gauche d'Olivier Monterrubio et la frappe de Laurent Robert.
Roten.
Personne, c'est nous dans l'after, qui disons. Voilà, c'est la fin de l'after.
Mes points là que j'ai gagné, j'espère qu'ils vont à Eric Dimeco pour le prochain Kikadi. Hein.
6-1 pour Tim Bacardi.
C'est 6 points pour Dimeco lundi au Kikadi.
Je donne, d'accord.
Golden Carotte, on remet ça vendredi prochain.
Le combat, messieurs, rapidement, je vous rappelle ce combat en décembre attendu. Si Caris n'affrontera pas Booba finalement, en revanche, Ludo Bragnac.
On n'a pas la sur la photo, les gars.
Passe ça, sans montage, messieurs, hein, précision.
Ludo, il y a du Photoshop, il est bien plus gros.
Boxe anglaise, 6 rounds. Ludo Dynamite Obraniak face à Iron Mac McCarthy.
Ah, c'est nul le pseudo, faut le changer.
On va le changer.
Et là, minuit, là, qu'est-ce qui se passe? RMC Fighter Club en direct.
Merci d'avoir suivi. L'after revient demain à 22h. Débrief, soirée de Ligue 1, bien sûr.
En direct,
les championnats étrangers. Jonathan McCarthy, Ludovic Obraniak. Excellente soirée. Merci à Arthur Robert et à monsieur Fernando Agnino Torres à la réalisation.
Merci Nicolas Jamin.
Salut les gars, bonne soirée.
RMC. L'after foot.
British summer can be as unpredictable as the weather. Footwear dilemma. Introducing convertible wellies. One minute they're Wellington boots, the next flip-flops.
Ooh, slightly embarrassing. Convertible wellies? Will never happen. However, with a new BP Me Rewards card, getting more of the summer essentials you love more often will. Search BP Me Rewards to find out more. BP. Every day. Brighter.